Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et j'ai choisi comme sujet d'aborder un sujet qui parle à chacun, quel que soit l'âge, un sujet que nous avons tous vécu ou que nous vivons aussi encore aujourd'hui, ce sont les relations amoureuses. Alors j'ai choisi de partir sur trois chapitres, dont le premier c'est la phase célibat et attente. Le deuxième c'est vivre une spiritualité saine dans un couple. Et enfin, nous terminerons par gérer les conflits et la rupture dans un couple. Je vous invite à un petit temps de prière avant de se lancer dans notre partage et notre méditation du jour. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps, que tu puisses nous parler, que tu puisses, Seigneur, être présent dans notre réflexion, dans nos idées, et que nous puissions, Seigneur, nous rapprocher davantage de toi. Amen. Alors, nous allons parler de la phase du célibat et de l'attente. Chacun d'entre nous gère ou ont géré cette phase à sa manière. Si on regarde un petit peu à la société, à la vision de la société, on peut voir qu'elle tend plus à une vision négative de ce qu'elle est le célibat. Les célibataires font face à la pression familiale, à la peur d'une solitude, à une recherche de l'âme sœur qui est vraiment au cœur de toute chose, avec une tendance, en tout cas sociétale, à vouloir enchaîner les partenaires rapidement dans la relation et ainsi ne pas rester seul. Finalement, la société fait de la solitude quelque chose de négatif qu'il faut absolument, enlever et passer. Pourtant, bien vivre son célibat est l'une des clés d'un couple futur heureux. Dans la Bible, si on regarde un petit peu à ce sujet sur le célibat, elle est considérée, en tout cas le célibat est considéré, il est considéré comme un don. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle du célibat en 1 Corinthiens 7 au verset 6, que je vous invite à lire son passage, ce passage, qui nous parle, on va dire, il s'adresse à nous d'une manière personnelle. Alors, il s'agit ici de son point de vue personnel, donc il nous dit, ce n'est pas un ordre, mais c'est un point de vue dans lequel il donne. Donc, c'est pas l'apôtre Paul dans la Bible. Il y a des passages où il dit, ça vient vraiment de Dieu et c'est un ordre à suivre, et des passages où ça vient de lui et c'est à propre à chacun. Donc là, c'est une idée de l'apôtre Paul qui est là et ce qui n'est pas un ordre divin, et il nous le dit bien. Paul prône un célibat comme étant mieux que le mariage, mais aussi comme un don qui n'est pas possible d'acquérir à tous et qui n'est pas pour tous. On rappelle sur la définition du don, hein, qui est quelque chose, en tout cas, qui est donné par Dieu pour servir et édifier son Église. Et un don ne doit pas être source de chute. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Si le célibat est source de chute et que vous brûlez, ça ne sert à rien de vouloir rester célibataire. Donc voilà, même si ce don, nous ne le possédons pas tous, le célibat est une étape par laquelle chacun, un jour dans notre vie, avons dû passer par cette période de célibat plus ou moins longue. Mais en tout cas, on est tous passés par cette étape. Alors, comment rendre ce don une source de joie? Comment rendre ce temps de célibat comme un temps de joie, édifiant spirituellement, instructif pour nous-mêmes? Finalement, comment être heureux, comment être un célibataire heureux, un ou une célibataire heureux? Tout d'abord, il faut apprendre à être avec soi-même. Et c'est ça l'avantage du célibat, parce qu'il permet de se retrouver avec soi. permet de prendre du temps de s'aimer, de se connaître soi-même, de se construire dans notre moi intérieur, de s'occuper de soi et de se consacrer à son épanouissement personnel. Un célibataire apprend à être bien, il a le temps, la patience, il a la possibilité d'expérimenter différentes activités, de cultiver sa vie sociale, de cultiver aussi sa culture personnelle, de faire du sport, d'aller voir les musées, de faire différentes activités possibles dans sa vie. Et même, il a le temps de aussi prendre soin de son corps. Il a le temps de aussi faire avancer sa carrière. On va dire que le célibataire heureux, finalement, s'est apprivoisé sa solitude, il s'est apprivoisé sa liberté et il en profite, on va dire, il profite de cela pour s'épanouir dans la société, s'épanouir dans sa culture, s'épanouir dans sa vie et surtout prendre soin de lui. Et c'est idem pour sa foi. Il a le temps de se développer spirituellement, de s'investir dans son église, de participer aux événements interreligieux, aux événements chrétiens, de jeunesse, de rassemblement, quel que soit en tout cas de sa tranche d'âge. Maintenant, il y en a beaucoup en Île-de-France. Il a le temps de développer sa relation avec Dieu, de s'épanouir dans sa foi. Et c'est à ce moment-là que finalement le célibat devient un don, parce qu'il est mis au service de Dieu, mais il permet de se construire soi-même avec Dieu et de prendre le temps de se retrouver avec soi et de se connaître soi-même. Pour résumer, avant de chercher finalement à être heureux avec quelqu'un d'autre et d'attendre que quelqu'un d'autre soit là pour être heureux, ben il faut être heureux avec soi-même. Vivre seul, s'aimer soi-même pour bien vivre à deux et bien aimer l'autre aussi. C'est ça l'important, en tout cas, de bien vivre son célibat, c'est apprendre et prendre le temps de s'aimer soi-même. Alors, pour terminer sur un peu un sujet long et on aura le temps de rediscuter, quelques erreurs et fausses attentes du célibataire, surtout du célibataire chrétien. Bien souvent, on recherche l'âme sœur spirituelle. Le célibataire chrétien attend de rencontrer le chrétien modèle ou la chrétienne modèle qui s'est engagée dans l'église, qui a une vie spirituelle incroyable, avec lequel on va pouvoir prier, partager soit sa foi, quelqu'un qui va nous tirer vers le haut. Alors, c'est très bien. Mais quelques recommandations, quelques avertissements. Attention à ce que nous mettons derrière le mot chrétien. C'est pas parce que cette personne est engagée dans son église et partage, prie avec ferveur et avec foi que elle sera un bon ou une bonne partenaire de vie. Le chrétien ne signifie pas être un mari ou une épouse parfaite et que tout ira bien. Déjà, c'est une bonne chose. Et derrière le mot chrétien, il faut aussi faire attention si ce ne serait pas un chrétien à demi-mesure, un chrétien du dimanche ou un chrétien de faux-semblant. Donc, oui, chercher quelqu'un de chrétien, c'est très bien, mais attention à derrière le mot qu'on met derrière chrétien. Ensuite, quelqu'un d'engagé. Alors, c'est très bien, mais les questions demeurent. Suis-je moi-même à la hauteur de son engagement ? J'entends souvent dire « je veux une chrétienne engagée dans un ministère qui est peut-être un ministère pastoral ou un ministère de mission, tout ça, engagée dans son église. » Est-ce que moi, dans la foi, je suis à la même hauteur de cette personne-là, de cette exigence ? Qu'implique aussi l'engagement. Si je le disais, je veux m'engager avec un missionnaire, suis-je prêt aussi à abandonner ma ville, mon travail, en tout cas ce que j'ai construit pour le suivre dans sa mission. Exact, pareil pour un pasteur, pour un évangéliste. Dans tout ça, suis-je prêt aussi à suivre son ministère? Et aussi, suis-je prêt aussi à ne pas abandonner mon ministère aussi? Bien souvent, on attend que l'autre ait un ministère pour s'impliquer dans son ministère. Mais le Seigneur nous a donné à chacun des dons, nous a donné chacun un ministère individuel. Et il ne nous demande pas qu'en couple, l'un abandonne son ministère au profit de l'autre. Bien au contraire, on doit travailler ensemble à cela. On attend de l'autre une spiritualité grande pour que notre couple, en tout cas l'image d'un couple spirituel, mais déjà, suis-je dans une spiritualité individuelle assez forte, assez grande pour ensuite la vivre dans le couple? Quelques questions que nous essayerons de parler lors de notre rencontre et si des personnes veulent venir témoigner de cela, qu'ils se sentent libres et ça sera enrichissant. Les questions, c'est est-ce que on peut être avec un non-chrétien aussi? Quelles en sont les difficultés? Et si des personnes vivent cela, qui viennent partager un petit peu comment ils vivent leur foi, comment en couple ils le vivent et quelles difficultés ils rencontrent aussi, et on essaiera de continuer à parler sur toutes les questions liées au célibat et à cette attente. En tout cas, que ce soit un temps de partage sur que chacun comment on l'a vécu, comment on a vécu, on va dire, une attente plus ou moins longue, et comment le Seigneur, en tout cas, nous a édifiés dans ce temps. Deuxième partie qui va concerner la spiritualité du couple. Un sujet qui nous touche particulièrement en tant que couple chrétien, et nous verrons ensemble les différentes attentes que l'on peut avoir de notre conjoint, de notre vie de couple spirituel, mais aussi nos déceptions et nos illusions. Tout d'abord, nous allons parler d'un couple fraîchement ensemble ou fiancé. Dans un couple en devenir, il y a une question qui domine. Dieu nous a-t-il unis? Est-ce réellement le bon? Allons-nous nous marier? Et le couple chrétien fonde sa vie spirituelle autour de cette question. Ils ont des temps de prière ensemble, ils vont à l'église ensemble, ils font des rencontres ensemble, ils côtoient des jeunes couples ensemble, parfois ils font même des conférences ensemble, et toute la vie de prière, toute la vie spirituelle tourne autour de cette question: sommes-nous dans la volonté de Dieu ou pas? Et cette question, ils essayent d'y répondre ensemble, commun. Et voici souvent ce qu'il se passe dans ce genre de cas. Dieu peut dire oui à l'un et affirmer, et la personne peut dire oui, c'est toi, le Seigneur m'a confirmé, mais à l'autre, le Seigneur dit rien ou dit non. Le couple peut se séparer et en vouloir à Dieu en disant, mais Seigneur, je ne comprends pas, tu m'as dit oui et pourtant l'autre, tu as dit non. Déçus, ils délaisseront Dieu, l'Église et la foi même. Le couple peut se séparer et finalement se sépare ensuite de l'Église, se sépare de tout ce qui est lié à leur foi spirituelle et finalement, eux qui avaient des temps forts de prière, des temps de louange, des temps forts communautaires se retrouvent seuls, sans plus rien. Le couple peut, dans des temps de prière, même à force de faire des temps de prière, à force de se retrouver ensemble, brûler. Et comme nous le dit l'apôtre Paul, tomber dans des relations intimes avant le mariage. Le couple peut se marier, mais abandonner très vite toute forme de spiritualité commune ou individuelle parce qu'ils n'ont plus de sujet qui maintient et qui tient cette vie spirituelle en couple. Alors, comment éviter les pièges de cette vie spirituelle, entre guillemets, partielle? Tout d'abord, l'élément à comprendre et à savoir est que notre spiritualité est individuelle. Dieu n'est pas un Dieu de couple, mais il est un Dieu personnel. Chacun doit vivre sa propre relation avec Dieu. Lui seul est mon confident. On reviendra un petit peu plus tard sur ce propos. Dans notre désir de tout faire ensemble, de rechercher tout, nous oublions le moi. Nous oublions la foi et nous oublions ce que le Seigneur a mis en nous. Nous avons besoin de grandir individuellement, de s'affirmer individuellement, de guérir individuellement, de se transformer avant de rechercher de le faire pour l'autre ou dans l'autre. Mon conjoint n'est pas le sauveur de ma foi. Il doit apprendre à avoir une relation qui m'est propre et une manière de vivre ma foi seule. Et finalement, en couple qui partage tout, même leur foi, on en oublie le moi et on en oublie de grandir individuellement. Alors pourquoi? Premièrement, parce que cela évite, lors d'une séparation, de tenir Dieu responsable. Grandir dans sa foi individuelle, séparer la foi de chacun, c'est de voir que la foi n'est pas commune, mais qu'elle est personnelle. En couple, notre regard est souvent celui du désir plutôt que le spirituel. On peut prier ensemble, faire des réunions de prière tous les deux, mais seul, dans un espace clos, notre regard est plutôt, et notre pensée est plutôt sur le désir de l'autre, quand est-ce qu'elle va m'embrasser, que sur réellement les paroles de prière. On peut faire dire par notre désir tout à Dieu. Oui, il m'a dit que tu étais la bonne, mais est-ce réellement Dieu qui dit ça? Les couples brûlent facilement parce que les temps de prière sont souvent des temps où on est seul, tard, et la prière nous plonge dans une intimité. Et du coup, ensemble, tous les deux, on se laisse aller et on brûle. Et finalement, des réunions, ce n'est plus pour prier, mais simplement pour être ensemble. Un conseil sur la vie spirituelle d'un couple, d'un jeune couple et d'un couple fiancé. Dieu vous confirmera au fur et à mesure. N'attendez pas une réponse claire, nette, oui ou non, mais c'est dans des petites choses que Dieu confirmera. C'est en le connaissant, par son caractère, ses réactions, sa vie, par son comportement avec vous. C'est par sa vie spirituelle individuelle que Dieu vous confirmera si il est le bon ou pas. N'attendez pas et en tout cas ne cherchez pas à tout prix un oui parce que le Seigneur ne donne pas ce oui, mais il confirme ce qu'il a déjà mis dans le cœur de chacun. Parlons maintenant du mariage. Dans le mariage, il y a deux écueils. Soit c'est le trop, soit c'est le pas assez. Dans le trop, marier, est-ce tout partager? Devons-nous également partager notre intimité spirituelle même dans le mariage? Pour moi, je dirais non. Je le disais, seul Dieu est le vrai confident. Même si notre conjoint est un confident, seul Dieu doit avoir accès à un jardin secret. Lui seul doit connaître et peut connaître notre intimité les plus profondes, nos sujets les plus difficiles, nos doutes même sur le couple, nos remises en question sur le couple ou sur nous-mêmes.
Une part de notre vie doit être réservée à Dieu parce que lui seul est capable d'entendre et d'être de bons conseils. Dans le couple spirituel, il y a le « nous ». Oui, ensemble, on ne fait qu'un, mais pas spirituellement. Et car il y a aussi le « moi ». N'oublions pas que devant Dieu, nous sommes seuls. Et le « moi » est très important dans notre foi. Le pas assez. Alors, il existe des couples hybrides, j'ai appelé ça comme ça, avec le conjoint est croyant et l'autre ne l'est pas, le conjoint est d'une autre confession religieuse et l'autre ne l'est pas. Et cela peut, en tout cas dans la vie spirituelle du croyant, entraîner différents sujets de réflexion, différentes peut-être parfois désillusions, différents questionnements. Et pour ça, je vous invite à ceux qui vivent dans ce cas, à nous partager tout simplement comment ils vivent les défis, les joies, les peines, les difficultés d'avoir un conjoint qui est d'une confession religieuse différente ou qui n'est pas chrétien, de voir un petit peu les discussions, comment la vie spirituelle évolue du coup individuellement. Et je vous invite dans notre temps de partage à pouvoir discuter ensemble de cela. Dans les deux cas, un couple chrétien doit arriver à un sentiment de partage. Et c'est ça qui est bon. C'est dans le couple chrétien, trouver finalement le format qu'il plaît et convient à chacun. Un format dans lequel chacun peut s'exprimer librement sur sa foi, sur ce qu'il vit avec le Seigneur et partager ses joies, ses peines, tout en gardant bien sûr encore une fois un jardin secret pour Dieu. Alors, il n'y a pas de secret d'un couple spirituel. Chacun doit faire comme il le convient. Ce qui marche, ça peut être par des temps de discussion, par simplement un texte qu'on a lu et on en discute ensemble sur la prédication, sur le culte, sur ce qu'on a vécu, sur ce que le Seigneur nous a touché. Des temps de prière pour un sujet grave, pour une préoccupation familiale, pour un projet. On peut louer simplement ensemble. Certains, juste préparer la louange ensemble, ben c'est leur temps de communion, leur temps de spiritualité commune. Ils peuvent réfléchir ensemble sur un sujet. Il n'y a pas besoin vraiment de se poser autour d'une table et que chacun son tour fasse un partage biblique d'une heure et que tous les jours, ça soit ainsi. Chacun doit trouver son rythme de couple. Mais en tout cas, un couple heureux, spirituellement, c'est un couple qui est capable de dire à l'autre « prie pour moi ». Prie ensemble pour sa famille. Un couple qui est capable de dire à son conjoint, en ce moment c'est dur, est-ce que tu peux prier pour moi? C'est un couple qui est capable de librement exprimer sa foi sans que l'autre ne soit vexé, soit en colère sur ces différents sujets. C'est ça un couple heureux spirituellement. Et il ne faut pas oublier la dimension familiale qui est importante dans la Bible. Et les proverbes parlent de cette dimension spirituelle familiale comme une transmission qui commence par l'attitude que nous avons dans notre couple. Il y a le proverbe 22 qui dit « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années et il le gardera même dans sa vieillesse. » Alors on peut mettre cela pour le couple en disant « Donne à ton couple de bonnes habitudes dès les premières années et ce couple les gardera tout au long de sa vieillesse. » Dans la spiritualité du couple, chacun doit trouver son rythme. Chacun doit se sentir libre d'exprimer ou pas ce qu'il vit de la part du Seigneur et le couple doit être ce lieu ou d'expression spirituelle qui convient à chacun. Nous allons parler de rupture
Puis dans un second temps, nous parlerons de comment surmonter les crises et les conflits dans le couple. Tout d'abord, les ruptures. Alors, je fais exprès de pas parler de divorce parce que les divorces sont un sujet là aussi encore plus vaste et qui sont itinérants au mariage. Mais j'ai préféré parler de rupture pour un couple qui se fréquente ou pour un couple fiancé. Alors, bibliquement, on n'a rien sur les fréquentations puisque à l'époque, un couple se fiançait et ensuite se marier. Et c'était pendant les fiançailles qu'il y avait la phase de connaissance où ils apprenaient à se connaître, ils apprenaient à partager, ils discutaient et ils pouvaient annuler ou rompre les fiançailles comme on peut voir par exemple Joseph qui, lorsqu'il a appris que Marie était enceinte, voulait rompre les fiançailles. Donc la phase de fréquentation n'est pas forcément, on n'a pas de matière biblique qui est lié un petit peu à ça, et c'est vraiment dans notre génération et dans l'ère contemporaine qu'on se fréquente, ensuite on se fiancie, ensuite on se fiance et ensuite on se marie. Et dans ces phases de fréquentation, il y a les ruptures. Alors on va parler un peu plus maintenant de séparation et de rupture. 60% des causes de suicide sont dues à une rupture sentimentale. Cette rupture sentimentale est à prendre au sérieux, quel que soit l'âge, et à ne pas minimiser ou même à enterrer. On a bien souvent tendance à en faire rien, en faire de rien, en disant, par exemple, un de perdu, 10 de retrouvé, ou à dire t'es trop jeune pour comprendre ce qu'est une séparation, etc. Or, chez les jeunes, la phase de séparation peut être extrêmement mal vécue et on peut vivre une séparation dans la fréquentation, mais aussi dans le fiançailles comme étant un divorce. Pourquoi ? Ben, c'est un peu la difficulté, en tout cas, de notre génération, en tout cas actuelle, qui vit ces phases de fréquentation et de fiançailles comme étant un mariage. Et le degré d'intimité partagée est tellement élevé que ils sont pas en couple, ils sont pas fiancés, mais ils vivent comme des êtres mariés. Au bout d'un mois, ils vivent ensemble, ensuite ils ont des enfants très vite. Et après, il y a quelques années après une rupture parce que le couple n'a pas eu le temps de se construire, le couple n'a pas eu le temps de se découvrir. Ils se sont très vite installés dans un contexte, dans une bulle d'un couple marié alors qu'ils n'y étaient pas. Et le problème d'une telle séparation, c'est qu'elles sont vécues comme un divorce et entraînent des bagages émotionnels, des sentiments qui sont brisés, des émotions qui sont cassées et qu'il faut reconstruire. Et pour certains, c'est pendant des années, et ça dure des années, qu'ils gardent avec eux ces bagages. Manque de confiance en l'autre, peur de se dévoiler, manque de sécurité, douleur, tant de choses qui viennent avec cette séparation. Alors, je pense que si le Seigneur nous guide, en tout cas dans ce qu'il donne sur les fiançailles et sur le mariage, c'est de prendre son temps et de prendre le temps de se connaître. Oui, il faut se dire que nous avons le temps de rentrer dans le mariage qui est un projet commun. On a le temps de vivre des choses de couple, on a le temps de vivre des expériences de couple, mais dans la fréquentation et le mariage, c'est celui d'apprendre à se connaître avant tout. Et surtout, apprendre à se connaître dans ce qu'il est, dans les projets, dans sa vie, dans sa personnalité, dans ses réactions, dans sa spiritualité aussi, c'est apprendre à savoir discerner comment l'autre est, tout simplement. Alors maintenant, s'il y a rupture, comment faire ?
Tout d'abord, il ne faut pas enchaîner les fréquentations. Beaucoup ont ensuite des relations pansement, on appelle ça, qui s'enchaînent et qui continuent séparation dans le même motif. On est ensemble, on est très vite dans la passion, on partage tout très vite, puis on se sépare et ensuite on remet encore et encore toujours le même cycle. Lorsqu'il y a séparation, il faut prendre le temps de guérir, prendre le temps de se reconstruire, prendre le temps pour soi et aussi apprendre à se connaître. Beaucoup enchaînent les relations par peur et par solitude, la solitude. Alors qu'être seul, ça fait du bien. Être seul, c'est aussi le temps de se connaître, le temps de se trouver, le temps de s'apprivoiser soi-même. Et on en a parlé dans le dernier partage biblique, finalement, c'est ce temps de célibat, le temps d'être heureux avec soi. Ensuite, lorsque ce temps, on retrouve un petit peu le bonheur de se retrouver soi-même, il faut analyser les échecs de la relation. Une relation, il n'y a jamais quelqu'un qui est totalement en tort, totalement ou qui a totalement raison. Dans une relation, il y a une part de 50-50. Donc, il faut trouver ce qui n'a pas été dans la relation, ce que j'aurais pu changer en moi, tout ce qui a amené finalement du poids dans cette séparation, de mon côté, mais aussi de l'autre côté, des choses que j'ai dites, des choses que j'ai faites et qui ont cassé petit à petit cette relation. Yeah. Le troisième point serait celui de pardonner et de se pardonner aussi, ce qui est important aussi. Pardonner ses échecs, pardonner ses fautes, pardonner à l'autre aussi de cette rupture. Et puis, à la suite de cela, avancer. Avancer dans notre vie, avancer dans nos projets, avancer dans notre carrière, avancer dans nos études, avancer dans notre vie. Parlons maintenant un petit peu de la sexualité au sein de nos fréquentations et au sein d'un couple fiancé. Aujourd'hui, on marche plutôt à l'envers. Aujourd'hui, les couples ont des relations sexuelles avant et après, ils apprennent à se connaître et discutent après. Mais cela entraîne finalement des séparations encore plus difficiles et encore plus douloureuses. Lorsque la Bible nous parle de sexualité, elle nous parle comme étant un lien qui nous unit et qui scelle le couple. La sexualité implique être à nu, c'est se dévoiler dans son entièreté et se sentir finalement vulnérable devant l'autre. Lorsque j'ai des relations sexuelles avec un autre, je me dévoile dans mon entièreté, dans tout ce que je suis et dans mon intimité profonde à l'autre. La Bible utilise le mot « connaître » pour parler de sexualité et ce qui nous indique vraiment le rapport et le terme qu'il donne, c'est se connaître pleinement et intimement. Alors, hors mariage, cela finalement expose cette sexualité à la séparation. Elle expose finalement à danger d'être méprisé, d'être trahi, d'être bafoué, de perdre aussi de sa valeur. Et elle marque finalement, on la met en danger d'être touchée dans son entièreté, dans notre pudeur, dans notre intimité, dans notre confiance envers l'autre. Et s'il y a rupture, c'est aussi notre sexualité qui est touchée dans sa profondeur. Alors un conseil. Aussi, si le Seigneur nous met la sexualité dans un cadre de mariage, ce n'est pas pour nous donner comme ça des choses pour nous embêter, mais c'est pour la cadrer et pour qu'elle puisse s'épanouir. Parce que c'est dans le mariage que la sexualité s'épanouit et s'épanouira ensuite. C'est la sexualité qui unira le couple marié et qui fera aussi partie du bonheur du couple.
Et finalement, pour clôturer ce temps, plus vous ouvrirez votre intimité à l'autre dans votre fréquentation ou dans votre fiançailles, plus la douleur d'une rupture sera forte et vous aurez finalement aussi le sentiment de vivre aussi un divorce. Donc faites attention à ce que vous dévoilez, faites attention au degré d'intimité que vous recherchez dans votre couple. Prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de vous apprendre, prenez le temps de savoir vos projets. Et un conseil, si vous décidez de prendre cet engagement devant Dieu d'attendre le mariage, c'est aussi de sonder la réaction de votre partenaire. Comment il va réagir? S'il ne respecte pas dès maintenant votre foi et ne respecte pas votre engagement devant Dieu, comment cela se passera lorsque vous serez mariés et vous voudriez en tout cas prendre des engagements autres devant Dieu? Et si au contraire il respecte, vous soutient et est avec vous dans ce cheminement, alors c'est aussi peut-être une indication dans votre manière de vivre aussi cette spiritualité. Et dans un deuxième temps, maintenant, nous allons voir tout ce qui est lié aux conflits et aux crises qu'un couple marié doit vivre.
Alors, chaque couple vit des temps de crise et de conflits, et ces temps sont souvent perçus comme étant très négatifs et se terminent principalement par un divorce. Le divorce est trop souvent utilisé comme l'unique solution à ce problème. Cependant, sauf cas extrêmes de violence, de mise en danger, d'abus, etc., où là, le divorce est la solution, il y a, avant d'arriver, pour d'autres cas, d'en arriver là, à des étapes de réconciliation à ne pas négliger. Et cela touche aussi bien les couples non chrétiens que les couples chrétiens. On a souvent une idée idyllique d'un couple chrétien que l'on pense à l'abri de crises, à l'abri de disputes. On pense que le couple chrétien est toujours entre guillemets parfait, mais il n'est pas non plus à l'abri de l'inévitable. Et les crises et les conflits font partie du couple chrétien ou non. Mais c'est dans sa manière de laisser le temps et dans sa manière de gérer ces conflits que le chrétien peut se démarquer. Dans la vie d'un couple, la première crise qu'il doit faire face s'appelle celle de la désillusion. Elle apparaît généralement autour des 3-5 ans, peut être retardée souvent par des projets, par des enfants, par des maisons, des projets qui s'enchaînent et qui viennent finalement surmener la vie de couple. Et beaucoup se réfugient d'ailleurs dans des projets de sortie avec les autres pour éviter de se retrouver seul et finalement d'éviter de traiter les problèmes de fond, ce qui décale la crise de désillusion, mais qui est inévitable et qui apparaîtra un jour ou l'autre. On appelle cette crise comme désillusion, le moment où l'amour change. La passion des débuts qui nous faisait tout accepter, tous les défauts de l'être aimé, n'est plus. La chimie semble être disparue, les conversations se tarissent, les rapports sexuels ont diminué. Et c'est un peu le jour où l'on découvre la personne sur ce qu'elle est réellement. On la découvre telle qu'elle est et on se dit c'est elle qui partagera notre vie. L'idéalisation des premières années a disparu et il n'est plus le prince charmant que j'avais choisi ou même la princesse que j'avais choisi. Nous commençons à dire et à exiger ce que nous attendons du couple. C'est la phase dans laquelle où on essaye de s'affirmer dans le couple et de porter le couple dans une direction. Et on se rend compte que l'autre ne partage pas les mêmes points de vue, n'a pas les mêmes opinions, n'a pas la même vision, ni les mêmes réactions, que ce soit sur l'argent, sur les loisirs, sur les tâches ménagères, sur les priorités, sur les amis. Son sens des priorités n'est pas le même que le mien et
On n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'entendre. La phase de l'amour-passion se transforme à ce moment et doit se transformer en amour plus authentique, plus vrai. Et c'est cette transition qui est déterminante pour le couple. Parce que si le couple arrive à dépasser cette crise, son amour sera plus fort, plus solide, il sera vrai, mais il aura pris en maturité. Alors ça ne signifie pas qu'il n'y a plus d'amour, mais c'est un amour qui est plus mature et qui est plus qui peut durer dans le temps. Le couple ne peut pas survivre s'il n'y a que la passion, car la passion, on le sait, est fugace. Alors, pour cela, il faut que, pour surmonter cette première crise de la désillusion, il faut que le couple passe par l'acceptation de l'autre tel qu'il est réellement. Malgré certaines déceptions, il accepte les imperfections de son partenaire parce qu'ils savent qu'eux-mêmes ne sont pas parfaits. Et c'est là que le monde chrétien, le milieu chrétien peut rentrer, la foi peut rentrer en jeu puisqu'on on peut calquer l'effet de la repentance sur le couple dans lequel on reconnaît nos fautes, on reconnaît que on a blessé notre partenaire, on demande pardon et on change. Chercher à rendre son partenaire à notre image, c'est ce qu'il ne faut pas faire finalement, parce que ce sera toujours une source de blessure et le couple ne pourra jamais avancer. La clé pour surmonter la crise de désillusion sera la communication, l'écoute. Fuir, divorcer, se taire, enterrer cette désillusion ne fera jamais grandir le couple, mais ni même notre façon d'aimer. L'amour doit changer, l'amour doit se fortifier, l'amour doit durer dans le temps et pour cela, il faut qu'il soit vrai, authentique et il doit passer ce cap de l'amour passion qui était aveugle. Cette première crise est importante, elle est bénéfique pour le couple car il permet de rencontrer réellement l'autre, d'affirmer ses besoins, ses attentes, d'avancer ensemble dans l'admiration, la confiance et le respect. Les crises sont là pour réajuster le chemin à prendre, sont là pour réorienter, on va dire, le couple dans un même sens. Mais pour cela, il faut communiquer et il faut faire preuve aussi de changement. Malheureusement, beaucoup de couples se refusent de faire cet effort et finissent donc par divorcer. Et ne passeront jamais le cap des 3-5 ans, le cap de la passion. Une seconde crise qui est tout aussi importante est celle de l'arrivée du premier enfant. Un enfant révolutionne le couple parce que jusqu'à présent, il ne formait qu'un. Et l'arrivée d'un enfant, maintenant, ils sont trois. L'arrivée d'un enfant constitue une source de stress importante par la grossesse, par l'accouchement, par l'installation, la préparation de l'enfant. Et finalement, cette crise dépendra de comment le couple gère et prépare l'accueil. Il faut préparer l'accueil pas simplement de façon matérielle, mais aussi s'attendre à différents changements. D'abord, la transformation physique, l'émotivité, la psychologie de la femme qui pèse lourdement sur l'intimité du couple. L'homme doit grandir, il doit devenir un peu plus mature, il doit passer la phase de l'adolescence. Alors c'est une phase qui est souvent chez l'homme et dure longtemps, et il doit être un peu plus mature psychologiquement et prendre et avoir conscience des responsabilités qu'implique avoir un enfant. Beaucoup d'hommes n'y parviennent pas, beaucoup d'hommes n'y arrivent pas et ne prennent pas conscience que devenir père, mère est très difficile. Beaucoup de couples se perdent dans l'arrivée d'un enfant. Et certains couples même s'oublient. Les crises surviennent lorsque, finalement, la préparation, le changement ne se fait pas. La mère, voyant souvent que l'époux ne prend pas conscience, ni ne prend pas ses responsabilités, s'investit seule, dans l'accueil de cet enfant et met de côté le père qui ne remplit pas sa part de responsabilité paternelle. Elle se sent alors seule dans cette aventure, s'investit davantage, renonce à sa carrière et n'a plus de force et n'a pas de force pour la confrontation. L'enfant devient le centre de la vie de la femme et l'homme, lui, se perd dans le travail. Cela crée un sentiment d'abandon, plus personne ne se comprend et le couple, finalement, s'éloigne l'un de l'autre. La femme remettra en question l'utilité du mari. Elle se dit qu'elle peut gérer seule et qu'elle n'a pas besoin de lui, qu'elle gagne son propre argent, qu'elle y arrive jusqu'à présent même et qui lui est plutôt un autre enfant parfois qu'elle doit gérer en plus. Et donc la femme préférera divorcer. L'éducation de l'enfant peut être aussi une source de disputes, chacun étant différent, chacun ayant aussi une éducation personnelle différente. Et finalement, l'éducation, encore une fois, peut être une source de disputes aussi pour les parents. Il y a aussi un phénomène aussi qui arrive chez l'homme, c'est le phénomène de la perte de son amour. Lorsque l'enfant arrive, l'homme, entre guillemets, doit partager sa femme et il perd son amour. Et certains psychologues pensent que cette jalousie, entre guillemets, inconsciente que l'homme a envers l'enfant peut être source aussi de désinvestissement paternel et peut être source, entre guillemets, d'abandon, d'amour, d'abandon, entre guillemets, de responsabilité, en se disant « je laisse ma femme et l'enfant ». Alors, comment surmonter cette crise de l'arrivée d'un enfant ? Encore une fois, c'est par l'acceptation. L'acceptation du changement, l'acceptation de grandir, l'acceptation de devenir plus mature, l'acceptation de l'autre dans ses faiblesses, dans ses incompréhensions, dans ses forces, l'acceptation de nos propres faiblesses, de nos propres lacunes. Et le couple, finalement, s'ils acceptent cela, s'ils en parlent aussi, deviendront une équipe. Et une équipe qui pourront se compléter dans ses forces, mais aussi dans ses faiblesses. Alors, c'est facile à dire, mais ça demande beaucoup de communication, beaucoup parfois de ronger son frein, entre guillemets. Mais ce n'est pas impossible. Le couple doit apprendre maintenant à être des parents, c'est-à-dire à prendre soin de leurs enfants, à prendre soin aussi de leur couple. Donc l'homme doit prendre ses responsabilités en main, la femme doit aussi laisser sa place aussi à l'homme, de pouvoir aussi créer du lien et remplir en tout cas ses responsabilités. Dans tous les cas, le couple pour l'accueil d'un enfant doit être stable, stable émotionnellement, stable aussi dans leur communication, parce que s'ils ne le sont pas, l'arrivée d'un enfant entraînera davantage, en tout cas de séparation, davantage de disputes et davantage d'éloignement. Un enfant n'est donc pas un pansement, ce n'est pas non plus un moyen de réparer ou de souder le couple. Ce n'est pas non plus un moyen de cacher et d'enterrer ce qu'il se passe et de passer à autre chose. Non, lorsqu'un couple va mal, il faut en parler. Moi, je regrette très souvent que lorsqu'on vient me voir dans ma qualité de pasteur ou pour accompagner des couples, que ça soit déjà trop tard. Un couple qui va bien, c'est là où il faut parler des sujets. Un couple qui va bien, un couple heureux, c'est un couple qui sait parler et qui sait s'entendre et s'écouter. Passez une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.